www.libradio.org.
Vous sentez cette odeur? C'est de napalm, fils. Il n'y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin, comme l'odeur de la victoire. Elle ne durera pas toujours, cette guerre.
La lutte syndicale du 4 octobre 1989, numéro 40, page 5. Genève et ses révolutions. Au moment où éclate la Révolution française, Genève est déjà une novatrice en matière de lutte politique et sociale. Ville prospère de 26 000 habitants, elle est largement alphabétisée et jusque dans les milieux très simples, on lit et on discute beaucoup. La majorité de la population active travaille dans l'horlogerie. La fabrication est dispersée dans de petits ateliers spécialisés où quelques ouvriers travaillent autour d'un maître. Tous sont soumis à des règlements très stricts et chacun doit faire un apprentissage à ses frais avant de pouvoir s'établir ou travailler comme compagnon. Comment se présente Genève au XVIIIe siècle ? République indépendante, alliée de Zurich et de Berne, elle se blottit comme un hérisson à l'intérieur de ses vastes fortifications. Elle est environnée par le pays de Gex français et sur la rive gauche par la Savoie, qui fait partie d'un royaume dont la capitale est Turin. Pour se rendre dans le bourg suisse le plus proche, Coppet, il faut passer par Versoix, qui est en France, ou alors prendre la voie du lac. Le territoire genevois est lui-même morcelé et formé de plusieurs enclaves. Le paysan genevois de Jussy ou de Ponet doit transiter en terre étrangère pour se rendre en ville. Dans cette ville aux frontières mal commodes, tous, on s'en doute, ne bénéficient pas du même statut. En théorie, les citoyens et bourgeois sont politiquement souverains et seuls habilités à exprimer leur avis et à voter dans les conseils généraux. Mais à vrai dire, il leur reste fort peu de possibilités de contrôler un gouvernement qui s'est peu à peu habitué à gouverner à l'ombre de ces deux conseils restreints, nommés à vie, sans trop se soucier des avis extérieurs. Professionnellement, c'est à ces seuls citoyens et bourgeois que sont en principe réservés les métiers nobles, de l'horlogerie et du commerce. Mais ils ne sont plus en nombre suffisant pour occuper toutes ces places, d'autant moins que l'économie prospère appelle un nombre croissant d'hommes à exercer ces tâches. Ce sont donc des immigrants, dits habitants et étrangers, et leurs nombreux descendants, les natifs, qui vont fournir les effectifs nécessaires en dépit des strictes interdictions qu'imposait un système archaïque de privilèges et de protections. En bonne logique, les nouveaux venus auraient dû être intégrés à terme dans le corps des bourgeois. Mais le système politique sclérosé de l'ancien régime ne le permettait pas. En résumé, voilà une bourgeoisie en cours d'enrichissement et numériquement en perte de vitesse. En 1650, citoyens et bourgeois forment la moitié de la population et occupent les trois quarts des emplois de l'horlogerie. En 1770, ils ne forment plus que 19% de la population genevoise et n'occupent plus que 30% des emplois horlogers. Le milieu des natifs sans droit politique est au contraire en pleine croissance. Dans la même période, la part des natifs dans la population passe de 18 à 33% et leur proportion dans les emplois de l'horlogerie passe de 15 à 53%. Le reste appartient aux immigrés. À la veille de la Révolution, de nombreux maîtres horlogers sont des natifs qui se souviendront des humiliations et des discriminations subies. Une situation malsaine dont le gouvernement ne se soucie guère, confiant dans des formes de pouvoir qui se cristallisent et qu'il imagine pouvoir conserver intactes et sans partage durant des siècles. Le premier combat qui agite la cité au XVIIIe siècle est pourtant un combat fiscal et politique. Les citoyens et bourgeois, ces privilégiés, sont les premiers à protester. Dès le début du siècle, ils revendiquent le droit à être consultés lors de l'instauration de nouveaux impôts. Ils veulent que le gouvernement obéisse à un code de loi écrite et ils veulent participer à cette rédaction. Ils veulent pouvoir choisir plus librement leurs magistrats, Ils veulent pouvoir pénétrer dans ces deux conseils restreints qui décident de tout. Enfin, lorsqu'ils adressent une représentation ou pétition au gouvernement, ils veulent être entendus. En cela, la bourgeoisie est pionnière du mouvement démocratique, même si elle revendique ses droits pour elle seule et ne se soucie pas du tout d'obtenir une égalisation des conditions en faveur des natifs et des nouveaux venus qui supportent des charges plus lourdes qu'elle. Les affrontements se multiplient au cours du siècle. Devant des revendications qu'ils ne désirent pas satisfaire, le gouvernement n'éprouve aucune répugnance à faire appel aux puissances voisines pour régler les conflits qu'il oppose à son peuple. En 1768, Berne et surtout la France offrent leur médiation. En ce XVIIIe siècle, Genève n'est plus tout à fait souveraine et la France prend une importance croissante dans le règlement de ses conflits. Les natifs revendiquent à leur tour à partir des années 1760. Après une sévère répression en 1770 que les bourgeois ont approuvée, un habile négociateur, Isaac Corneau, juge qu'il n'y a plus à gagner pour les natifs à s'allier au pouvoir contre la bourgeoisie. Les natifs gagneront en effet à cette fidélité l'effacement des discriminations professionnelles avec les bourgeois. Les bourgeois avaient cru parvenir à leur fin en 1779. Un code était alors négocié avec les conseils restreints. Mais le parti des négatifs crie alors à la démocratie plébéienne et parvient à intéresser à sa cause Vergennes, le ministre des Affaires étrangères de France. Tout est bientôt bloqué à Genève et les esprits grondent. Habilement, les bourgeois parviennent à rallier beaucoup de natifs en leur promettant plus que le gouvernement. En 1781, ils imposent à celui-ci, par la force, un édit qui ferait admettre beaucoup de natifs à la bourgeoisie et rouvrirait la négociation d'un code des lois. Le gouvernement tarde à l'appliquer. En avril 1782, c'est l'insurrection. Natifs et bourgeois s'emparent des postes militaires, retiennent 17 de leurs membres en otage et épurent les conseils restreints. Le gouvernement ainsi renouvelé applique le programme à journée. En juin, la ville est assiégée sur l'initiative de Vergennes par des troupes françaises, bernoises et sardes. Les bourgeois se rendent, au grand dépit du petit peuple qui voulait se battre. Les chefs du mouvement bourgeois sont bannis. Un régime sévère est imposé aux Genevois. Les bourgeois perdent la plupart des droits politiques péniblement retrouvés au cours du siècle. Mais à cette date, les natifs ont acquis l'égalité économique et professionnelle avec les bourgeois. Suivent 7 années de prospérité dans un climat morose et étouffant. Ce qui se passe à Genève à partir de 1789 est surtout politique au sens étroit du terme. Une émeute populaire en janvier, à la suite de l'augmentation du prix du pain, permet aux bourgeois de reprendre leur combat. Le gouvernement doit céder et rend à la bourgeoisie ses armes, ses chefs bannis en 1782 et les cercles de discussion. Dès 1790, les brochures politiques inondent la cité plus encore qu'avant 1782 avec une composante franchement révolutionnaire. Les natifs et les paysans, inspirés des idées de France, réclament à présent l'égalité politique avec les bourgeois. Nouvelle manifestation de rue en février 1791, natifs et paysans s'étaient donné le mot d'ordre de cercle en cercle. S'ils n'obtenaient pas de réponse à leur mémoire revendicatif, ils se rassembleraient et se montreraient vivement dans les rues, tandis que de l'extérieur, les paysans se présenteraient en foule aux portes de la ville. Les masses populaires non armées ébranlent le gouvernement, d'autant plus que la bourgeoisie le boude encore. Mais voilà que l'un des chefs de la bourgeoisie exilée en 1782, Dureveret, revient au premier plan. Profitant des troubles populaires, il propose de repousser les émeutiers au moyen des armes bourgeoises, à condition que le gouvernement accepte toutes les revendications des bourgeois. La manœuvre réussit. L'émeute est contenue, le code des lois promis depuis 1738 et constamment ajourné est enfin négocié, mais avec les seuls bourgeois. Pas question pour les natifs de participer aux négociations. En novembre 1791, ce dernier monument législatif de l'ancien gouvernement entre en vigueur. Beaucoup de natifs et de paysans sont admis à la bourgeoisie, mais les discriminations politiques subsistent et le code n'offre pas les garanties d'une constitution moderne qui prévoit des magistrats librement et périodiquement renouvelés et qui sépare notamment l'exercice de la justice de celui du pouvoir exécutif. Les natifs, dont la majorité reste sans droit de bourgeoisie, demeurent dans l'opposition, une minorité de bourgeois progressistes rassemblés autour du cercle de l'égalité créé en 1790 également. Tout se précipite avec l'invasion de la Savoie par les troupes françaises en septembre 1792. Les magistrats genevois font appel aux troupes de Berne et de Zurich pour protéger la cité. Mais bientôt, la France promulgue un décret redoutable. Elle promet son assistance militaire au besoin en faveur des peuples qui voudront recouvrer leur liberté. Et les troupes françaises se trouvent aux portes de Genève. De plus, la présence des Suisses à Genève indispose les Français qui les menacent d'une guerre. Un arrangement est finalement conclu qui sera respecté jusqu'à l'invasion de la Suisse en 1798. Les Suisses se retireront de la ville et la France ne touchera pas à Genève. On avait réussi à convaincre la Convention, à Paris, que la neutralité des Suisses était avantageuse à la France, alors en guerre sur presque tous les fronts. Et Genève, alliée des Suisses, allait en profiter pour faire sa propre révolution de manière autonome et sans l'aide des Français. Après le départ des Suisses, le décret français demeure une menace permanente sur l'indépendance. L'ancien gouvernement ne s'y trompe pas et prévoit précipitamment d'accorder l'égalité à tous. Il est devancé par l'insurrection. Le 4 décembre 1792, les égaliseurs, en bonnet rouge, occupent tous les postes militaires et le gouvernement se trouve placé sous la tutelle des cercles, en fait orchestré par le cercle de l'égalité, qui pourra dès lors imposer son programme à la française. Le 28 décembre, une nouvelle insurrection balaie les patriciens et leurs conseils et institue un gouvernement provisoire. Joie populaire, sentiment de l'avènement d'un monde nouveau, contentement pour beaucoup. Ambition pour certains qui accéderont aux nouvelles carrières politiques ouvertes par le suffrage universel, masculin certes, alors qu'on élabore une constitution moderne, qu'on prévoit un programme d'éducation obligatoire et largement gratuit, et même un programme social généreux, bien en avance sur leur temps, les coups de bâton et de nerfs de bœuf pleuvent sur les réfractaires qui se moquent de la nouvelle égalité. C'est que les patriotes de conditions populaires rêvent d'une société aux mœurs plus simples, plus fraternelles. Les positions vont se durcir avec la crise économique qui fait rage dès le milieu de 1793 et culmine en 1794. Cherté des subsistances, rareté des matières premières pour les horlogers, débouchés fermés conduisent à prévoir diverses mesures de secours dont la première vient spontanément à l'esprit des révolutionnaires, faire payer les riches pour subvenir à l'entretien des sans-travail. Au sein du grand club fraternel des révolutionnaires genevois, qui rassemble les patriotes dès mars 1793, des orateurs lancent des appels menaçants à l'égard des avares fortunés. Les antagonismes se durcissent avec l'exemple de la France. Une nouvelle insurrection éclate en juillet 1794. Les révolutionnaires désarment cette fois-ci leurs adversaires, jusque-là préservés par un pouvoir modéré, et feront fusiller 5 patriciens et 7 autres suppôts de l'ancien gouvernement. Volonté de punir une aristocratie qui menaçait de reprendre le pouvoir. Il s'agit bien plus de vieux règlements de compte, notamment à l'égard de ceux qui avaient provoqué l'appel aux troupes étrangères en 1782. Aussi, on en profite pour percevoir une taxe révolutionnaire sur les fortunes qui permettra de subvenir aux frais et aux larges subventions de l'État en ces temps de crise extrême. Mais bientôt, un revirement se produit en France. Le petit peuple des sans-culottes cesse d'être à l'honneur. L'étalage de la richesse et du luxe reprend ses droits. L'idéal de 1793 et 1794, ces châtiments exemplaires, deviennent des objets de réprobation. Et Genève se retrouve avec ses morts sur les bras, que personne ne cherche plus à justifier ouvertement. Il n'y a plus qu'à se réconcilier, tâche difficile, car la réconciliation avec les opposants ne passe-t-elle pas par la renonciation à une partie des acquis démocratiques ? On préserve, non sans peine, les principes de la nouvelle constitution, séparation des pouvoirs, égalité pour tous, suffrage universel masculin, mais on n'entend plus parler des droits de l'homme. Et l'on exècre dès lors tout ce qui ressemble à une grande assemblée populaire telle que l'avait été le Grand Club en 1793 et 1794. L'aventure révolutionnaire des Genevois se termine, malgré eux, en 1798. À cause de leur turbulence ? Certainement pas. Pour des raisons extérieures aux événements genevois, liées à la tendance expansionniste de la France, Genève est occupée et contrainte de demander son annexion en avril 1798. Un traité est alors négocié en des termes qui lui conservent un certain rôle. Elle devient préfecture du nouveau département du Léman, qui s'étend de Gex à Chamonix. La défaite de Napoléon, une nouvelle occupation autrichienne, permettront aux anciens patriciens que la révolution genevoise de 1792 avait déposée de reconstituer leur gouvernement et de proclamer l'indépendance. Genève est alors rattachée à la Suisse et commence une nouvelle série de luttes politiques et sociales. L'égalité politique et la démocratie reviendront à la faveur de nouvelles secousses. Les radicaux de 1846 ne rappelleront jamais les exploits de leurs prédécesseurs de 1793 et 1794, et la période que nous avons évoquée demeurera enfouie dans un oubli volontaire. Le mérite est-elle ? En dépit d'excès que personne par la suite n'a voulu justifier, ces années n'en ont pas moins représenté un temps de renouveau et d'espoir où d'ardents démocrates, sensibles à la cause populaire, ont tenté de maintenir un difficile équilibre en gérant une crise aiguë et en luttant pied à pied afin de préserver l'indépendance de leur cité. Article rédigé par Éric Golep.